C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore partager l'Évangile et que ce n'est pas un moment traditionnel, ce n'est pas un moment cérémoniel où il faut dire quelque chose sur la Bible, mais nous avons à cœur devant le Seigneur d'être instruits, d'être éclairés et combien nous avons besoin de sa lumière. Hein? Combien nous avons besoin de la lumière, de la parole de Dieu. Sans elle, eh bien, on ne tarde jamais à tomber. Ceux qui se privent de la parole de Dieu, ils s'affaiblissent. Hein? Et sans elle, nous sommes affaiblis. Mais nous avons besoin de la parole du Seigneur. Hein? Et ce matin, j'aimerais déjà voir une chose claire avec vous dans Jean chapitre 1er, verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17. Vous êtes prêts à supporter un peu de chaleur ce matin, là, et écouter la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que dit Jean ? Jean dit, au verset 16, il dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Grâce pour grâce, ça veut dire grâce par-dessus grâce. Et encore grâce, et on ajoute encore la grâce, et encore de la grâce, et encore de la grâce, et ça ne s'arrête pas. Vous avez bien entendu ce petit bout-là ? OK ? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je vous pose une question. Si la vérité était venue par Moïse, est-ce que Jean aurait parlé de la loi et de la grâce de cette manière, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance de cette manière ? Est-ce que Jean aurait dit la grâce et la vérité ? Il dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que la loi, c'était l'erreur ? Non. Mais si Jean dit, d'accord, la loi, c'est la vérité, c'est la Torah, c'est la loi de Dieu, ok ? Mais si Jean dit, inspiré par l'Esprit de Dieu, que la loi est venue par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, on est obligé d'arriver à une conclusion. C'est que la vérité qui est révélée sous l'Ancien Testament n'a pas été complète. Ça, numéro un, c'est sûr. Sinon, Jean aurait dit, la loi et la vérité sont venues par Moïse, et la grâce est venue après, en plus de cette vérité. Mais ce n'est pas ça. Hein? Le peuple d'Israël, par la loi qu'ils avaient reçue, n'était pas prêt, n'était pas capable de recevoir la vérité. La vérité telle qu'elle est dans le cœur de Dieu. La loi a été une approche de la vérité. Ça a été une approche de la vérité. Ça ne pouvait pas, tellement que c'était une approche, ça ne pouvait pas le libérer. Parce que si c'était la vérité entière, ça aurait libéré le peuple de Dieu. Oui ou non ? Et il n'y aurait pas eu besoin d'une nouvelle alliance, de quelque chose de nouveau, dans lequel Jean dit, maintenant la grâce est venue, la vérité est venue. La loi ne pouvait amener personne à la perfection. La loi contient une approche de la vérité, mais pas l'entière révélation de la vérité. L'entière révélation de la vérité s'était réservée au Fils de Dieu lorsqu'il est venu. Hein ? Faut bien comprendre ça. Il y a des bases comme ça, si ce n'est pas posé, on est dans la confusion après. Il faut partir de certains fondements doctrinaux. Il faut comprendre comment les Écritures fonctionnent. L'Ancien Testament, c'est de Dieu. La loi est de Dieu. Mais la Nouvelle Alliance, hein, c'est très spécial. À un tel point que la Bible dit que tout ce qui est de l'Ancienne Alliance a été réformé, a même été aboli. On va parler de ça ce matin. On va voir comment ça a été fait. Mais la Nouvelle Alliance, c'est la révélation de Jésus qui vient avec grâce. Et la grâce est ajoutée, justement, c'est l'élément qui permet à la vérité d'être efficace. C'est l'élément qui permet aux chrétiens, à l'homme, de supporter la vérité. La vérité qui est sous la nouvelle alliance, si cela était donné au peuple de Dieu sous l'ancienne alliance, ils auraient été deux fois plus tués. Ah oui. Mais la vérité plus profonde qui est venue de la part du Seigneur, elle est accompagnée de grâce, parce que s'il n'y a pas cette grâce, on ne peut pas comprendre cette vérité et on ne peut pas non plus la supporter. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce et nous rend capables d'entendre de notre vie dans une profondeur plus grande que ce qu'ils ont entendu et de comprendre la nature du péché dans une plus grande dimension que celle que le peuple de Dieu comprenait sous l'ancienne alliance, de manière à avoir une repentance plus grande, plus profonde, pour permettre à l'Esprit de Dieu d'agir dans notre vie. Ce qui vient sous la nouvelle alliance, c'est tellement plus grand et plus glorieux. Amen. Hein? Et ce matin, j'aimerais vous parler de notre repos dans le Seigneur, de notre sabbat dans le Seigneur. Parce que le sabbat fait partie d'un des 10 commandements qui ont été donnés à Moïse pour le peuple d'Israël. Et les 10 commandements ont été donnés comme étant les lois que Dieu a données à son peuple et que ça a été une approche de la vérité qui est toujours vraie aujourd'hui, mais qu'on doit comprendre comment Dieu, par Jésus-Christ, nous a amené, nous amène à accomplir cette loi, à vivre cela, mais dans la dimension dans laquelle Jésus accomplit l'œuvre de la croix. Et non pas nous satisfaire de vivre les choses seulement dans la dimension de l'Ancien Testament. D'accord ? Sous la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose de profond qu'on est appelé à vivre. Et la Bible nous dit, est-ce que vous savez qu'il nous est réservé un repos de sabbat ? Vous ne savez pas, mais c'est écrit. Dans Hébreux. Hébreux chapitre 4. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Bon, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le sabbat n'a pas été aboli, n'a pas été annulé. Ça, on doit être d'accord là-dessus. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est qui ? C'est nous. D'accord ? Mais maintenant, comment est-ce que on entre dans ce sabbat ? Hein ? Toujours dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous dit, je cherche ce verset, chapitre 4, verset 3, un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. On relit cela? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ce qui veut bien dire clairement, le repos, il ne faut pas oublier, quand on parle repos, on parle sabbat. Sabbat veut dire repos. D'accord ? Comment on entre dans le repos ? En croyant, pour nous qui avons cru, c'est la foi qui nous introduit dans le repos de sabbat qui nous est réservé. D'accord ? Le peuple d'Israël, sous l'ancienne alliance, il vivait le repos pas par la foi. Mais c'était la loi qui leur imposait cela. Mais le sabbat qu'ils pratiquaient, la Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. Hein? Mais la réalité, Colossiens nous dit cela, regardez, Colossiens, chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. » Parce que la loi gérait le manger et le boire. Il y avait des choses qui étaient impures et des choses qui étaient déclarées pures. Il dit, mais maintenant, sous la Nouvelle Alliance, que personne ne vous juge, parce que la loi a mené un jugement. Ceux qui transportent la loi de l'Ancien Testament, ils sont obligés, quelque part, de transporter un esprit de condamnation qui juge ceux qui ne pratiquent pas cette loi. Parce qu'ils estiment que cette loi doit être pratiquée comme elle a été écrite dans l'Ancien Testament. Mais Paul vient ici casser cela, anéantir cela. Il dit que personne donc ne vous juge, parce qu'on est libre de tout jugement, on est libre de la condamnation de la loi. Donc, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des, je veux vous entendre bien fort, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Hein? La réalité qui nous sauve, elle est en Christ. L'Ancien Testament, c'était une approche de la vérité. D'accord? C'était une approche de la vérité. C'était l'ombre. J'aime bien souvent, je vois ma petite fille qui court après moi et qui vient me prendre ma jambe pour me prendre dans ses bras comme ça. C'est super. Si elle essayait d'attraper mon ombre et d'embrasser mon ombre, je dirais, ma chérie, mais papy est là. On ne peut pas courir après l'ombre des choses. Si vous suivez une ombre, vous n'allez pas recevoir grand-chose. Mais la réalité, Jésus est venu, il dit, c'est moi la réalité, c'est moi le maître du sabbat. C'est de moi qu'il faut apprendre ce que c'est que le repos. D'ailleurs, il le dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Hein? Jésus avait l'esprit du sabbat, pas la lettre du sabbat. Il ne pratiquait pas la lettre du sabbat, il pratiquait l'esprit du sabbat. Les pharisiens le confrontaient sur la lettre. Mais lui n'était pas venu pour la lettre, il était venu pour accomplir, pour être dans l'esprit du sabbat. Il n'était pas contre le sabbat, mais il a remis les choses en place, en ordre. Il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. D'accord? Et que lui-même, il est le maître du sabbat. Et que lui-même, il donne du repos. C'est lui qui donne le repos. Et qu'il nous faut comprendre que quand nous croyons en lui, comme nous avons lu tout à l'heure, nous entrons dans le repos. Hein? Nous entrons dans le repos. Et si nous essayons d'entrer dans le repos en pratiquant ce que la loi nous dit, avec la pratique de cette loi qui parle du sabbat, nous n'entrons pas dans le repos. Nous reprenons le fardeau de la loi sur nous et nous en faisons une chaîne d'esclavage sur notre vie. Parce que nous retombons dans un système qui nous oblige à pratiquer quelque chose. Et l'obligation n'est pas un repos. Le Seigneur est venu nous rendre libres. Hein? Il est venu nous rendre libres. Comprenez bien, mon cœur n'est pas pour parler contre ceux qui croient dans le sabbat de cette manière ou pas, non. Mais je veux exposer ce que je crois qui est dans la parole de Dieu, qui est dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Jésus est venu dans l'esprit du sabbat. Il est venu montrer en quoi et pourquoi Dieu a donné le sabbat. Lui-même, il est le maître, le seigneur du sabbat. C'est lui le propriétaire du sabbat. C'est lui qui a donné cela à Moïse. Mais pas comme une réalité, mais comme une ombre. Et c'est ce que Paul vient dire plus tard. Il dit, mais c'était une ombre. Que personne ne vous juge au sujet de ces choses. C'était une ombre. La réalité, elle est en Christ. Le vrai sabbat, c'est lui. C'est pourquoi il guérissait les gens le jour du sabbat. Il était libre le jour du sabbat. Ses disciples qui étaient avec lui faisaient des choses que les pharisiens disaient « c'est pas permis de faire le jour du sabbat hein ». Se mettaient à cueillir sur des épis parce qu'ils avaient faim. Et comme si qu'il aurait fallu que le Seigneur les arrête. Mais Jésus leur a dit « mais le sabbat a été fait pour l'homme. S'il y a un besoin dans la vie de l'homme, comment on va faire passer le sabbat ?» C'est parce que quand on prend la lettre du sabbat et qu'on ne comprend pas l'esprit du sabbat, c'est-à-dire ce qui anime le cœur de Dieu, ce que Dieu recherche pour l'homme dans le sabbat, eh bien on en fait une lettre et un principe. Et là, on veut canaliser les choses, et ce n'est plus la liberté. Ça devient de l'esclavage. Hein? Mais gloire à Dieu pour nous qui avons cru. Nous trouvons ce repos et ce sabbat. Oui ou non? Il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est-à-dire celui qui a cru, vous êtes d'accord, entrer dans le repos de Dieu, c'est celui qui a cru, pour nous qui avons cru. C'est dans l'Épître aux Hébreux, ça. Vous savez pourquoi c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux? Est-ce que vous connaissez le contexte de l'Épître aux Hébreux? L'Épître aux Hébreux a été écrite à des Hébreux, des gens de culture juive, qui avaient l'Ancien Testament, et qui ont eu la tentation, à cause des persécutions, de retourner, de repratiquer la loi. Donc, le Saint-Esprit a inspiré l'auteur de ce livre pour dire au peuple juif, attention, il faut remettre les choses en ordre. Et une des choses qui est remise en ordre, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Qu'on ne croit pas qu'en retournant sous l'Ancien Testament, eh ben, on reste dans le repos de Dieu. Au contraire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est la foi, ce n'est pas la pratique de la loi. Et le sabbat est au centre de beaucoup de discussions. Hein? C'est au centre de beaucoup de discussions. Si on regarde dans Marc chapitre 2, verset 27, je vais attirer votre attention sur un petit détail. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça aurait été différent si Marc avait dit, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mais il dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, il est maître même du sabbat. Pourquoi ce même du sabbat? Hein? Même de ça. Il veut attirer l'attention sur quelque chose qui est sérieux et qui allait être le sujet d'une grande discussion pendant tous les siècles qui allaient venir dans l'Église. Hein? Mais comment le Seigneur dit qu'il est maître même du sabbat? Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer le sabbat en dehors de ce qu'il allait accomplir à la croix. On ne peut pas le voir en dehors de l'œuvre de la croix. Il y a quelque chose qu'il a accompli pour nous faire entrer dans le sabbat parce qu'il est le maître même du sabbat. Il y a quelque chose de spécial qu'il nous donne. Hein? Et Matthieu, chapitre 5, le verset. Hein? Ah, nous devons être éclairés pour être un peuple libre et surtout pour garder notre liberté. Hein? Pour garder notre liberté. Hmm? Chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé ou jusqu'à ce que tout soit accompli, d'après le grec. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, il parle des commandements de la loi là, hein? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. D'accord? Déjà, ça enseigne que si quelqu'un enseigne à supprimer un de ses plus petits, ça ne veut pas dire forcément, hein, si quelqu'un enseigne à supprimer un de ses plus petits commandements, déjà, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui perd son salut. Puisqu'il est dit qu'il sera aussi appelé le plus petit où? Pas en enfer, dans le royaume des cieux. Donc on n'est pas en train de parler de choses là, on n'est pas en train de parler du salut de notre âme, on est en train de parler de sa fermeté dans le Seigneur, de ne pas nous laisser égarer dans des doctrines dans lesquelles les hommes sont plongés et qu'il manque de lumière. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas trop vite, vous comprenez? On comprend bien. Alors, sera appelé le plus petit, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Hmm? Donc, c'est un point quand même qui amène la crainte de Dieu. Quand on parle de la loi, quand on vient toucher à la loi, eh ben, quand on lit cela, ça nous fait réfléchir. Il faut être sûr de ce qu'on est en train de faire. Parce que là, on peut perdre notre place dans le royaume de Dieu avec cette affaire-là. Hein? Il faut être sûr. Et qu'est-ce qui nous rend sûr? Qu'est-ce qui nous donne de l'assurance? C'est la révélation de la croix de Jésus. C'est de comprendre ce que Jésus est venu faire. Comment? D'après ce qu'un homme dit? Non, d'après ce que la parole de Dieu dit. Parce que si ce que Jésus dit ici paraît pour certains ne pas être très clair, parce qu'il dit qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu pour accomplir. Il nous faut tirer au clair aussi ce que Paul dit. Allons un peu plus loin dans ses épîtres. Dans Éphésiens, je crois. Chapitre 2. Et le verset 15, où il nous est dit, Paul dit que Dieu a renversé le mur de séparation entre le juif et les païens. Parce que la loi, automatiquement, quand elle intervient dans les choses de Dieu, elle amène la division. Elle monte des murs. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu juif d'un côté et païen d'un côté. Donc, voulant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est mort sur la croix, regardez. Ayant anéanti par sa chair, ça parle de sa mort sur la croix. Okay? Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. Déjà, il a anéanti quoi? La loi des ordonnances. C'est-à-dire, le mot ordonnance ici, c'est le même mot que commandement. D'accord? Dans le grec, c'est le mot commandement. Ça parle des commandements. Dans Colossiens, l'apôtre Paul reprend la même chose. Ce sont Colossiens et Éphésiens, sont deux épîtres parallèles. D'accord? Quand vous lisez la parole de Dieu, prenez conscience de cela. C'est bon à savoir. Colossiens 2:14, la Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamné et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a anéanti la loi dans ses prescriptions. Ok? C'est-à-dire la loi de ses ordonnances, il a anéanti cela. Mais maintenant, pourquoi Jésus dit, ah non, Jésus, lui, il dit, on croirait que Paul contredit Jésus. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir. Et c'est comme si que Paul dit ici que le Seigneur a aboli. Qu'est-ce qui peut nous aider ce matin-là à comprendre? Est-ce qu'il y a une contradiction entre Paul et Jésus? D'après vous?
Vous n'êtes pas sûr, beaucoup d'entre vous. Là, vous dites, ben, peut-être après tout.
Mais Paul avait la révélation parfaite de la volonté de Dieu. Hein? Plus que les apôtres qui ont vu même Jésus. Il a eu des révélations extraordinaires. Alors on revient dans Matthieu chapitre 5. Ça fait partie de notre équipement pour défendre l'évangile avec douceur. Pas pour devenir des gens qui connaissent des choses, pour entrer dans des disputes de mots avec les gens. Mais qu'on sache où on se tient et qu'on ait aussi des arguments pour expliquer avec douceur quelle est notre position. Parce qu'il faut bien, si on témoigne de l'évangile et que quelqu'un pose des questions, on ne peut pas se présenter comme quelqu'un qui laisserait le doute qu'on est dans l'erreur. Il faut connaître la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, non? Il faut comprendre, il faut connaître et il faut comprendre. Matthieu chapitre 5, on reprend. Car je suis venu, verset 17, non, il dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Alors là, il a accentué de telle manière qu'on se dit mais il n'est pas venu pour abolir. Mais il faut comprendre la subtilité. Parce que les Juifs auraient aimé qu'on abolisse la loi. C'était dur pour eux. C'était dur pour eux. Ils auraient voulu qu'il y ait quelque chose d'autre, quoi, que le Messie vienne établisse quelque chose d'autre. Hein? Mais ce n'était pas dans des motivations qui étaient toujours bonnes. Et puis aussi, parfois, c'était peut-être par souffrance sous la loi. Mais Jésus leur a dit, ne croyez pas à ça, hein? Que je sois venu pour abolir. Mais ce qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il dit, il est venu pour... Pour accomplir la loi. Alors si on prend le sabbat, on peut le mettre à la place de la loi. Il n'est pas venu pour abolir le sabbat, mais il est venu pour, je répète, il n'est pas venu pour abolir le sabbat, mais il est venu pour accomplir le, il est venu pour accomplir. Il faut comprendre. Quel est l'accomplissement? Qu'est-ce que Jésus amène en ce qui concerne la loi quand il dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir? Ce qui veut dire que les 10 commandements sont toujours d'actualité, dans un sens, mais ils ont été accomplis de telle manière qu'on ne retourne pas vers la loi des commandements de Moïse, mais qu'on rentre dans l'accomplissement des commandements du Seigneur par sa mort sur la croix. J'ai une image qui me vient à l'esprit. C'est très simple. Pour faire une voiture, qu'est-ce qu'on fait? On fait des plans et puis on a des matériaux. D'accord? Une voiture ou un bâtiment. D'accord? J'aime bien, tout souvent, je prends l'exemple de la voiture. Hein? Mais tout ce qui va faire la voiture, s'il y a du matériau, on ne va pas abolir les matériaux, on a besoin des matériaux, allons dire, pour amener l'accomplissement. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on a fait la voiture, on ne retourne pas sur la barre de fer qui a servi à faire le fer pour la carrosserie et tout ça. On s'assoit où? Sur la barre de fer ou dans la voiture? Ben, j'espère pour vous. Parce que là aussi, il y a un petit problème, quoi, sinon. Mais c'est pareil. Il n'est pas venu abolir. Hein? Il n'est pas venu dire ça, c'est pas bon. Il est venu accomplir de telle manière qu'on rentre dedans. Et quand on entre dedans, c'est pour le repos. Parce que monter sur la barre de fer qui sert à faire la voiture et aller à Saint-Pierre avec, laissez-moi vous dire que c'est un sacré boulot. Hein? Hein? C'est un sacré travail. J'aime bien entrer dans ma voiture. C'est le repos. Mes frères et sœurs, Jésus est venu accomplir la loi pour qu'on rentre dans l'accomplissement de la loi. Qui comprend? Donc, je ne peux plus pratiquer la loi sous la nouvelle alliance comme c'était pratiqué dans l'ancienne alliance. C'est me balader avec mes barres de fer et mes vitres. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc ça n'a pas été aboli, les matériaux sont là. Tu comprends? Ça n'a pas été aboli, les matériaux sont là. Je tiens ce volant, les matériaux sont là. Mais je ne tiens pas les matériaux, mais je prends le volant, je suis assis dans quelque chose qui est confortable. Oh! Jésus est venu accomplir la loi pour nous. Et dans quelle dimension il est venu accomplir la loi pour nous? Au verset 20 du chapitre 5, il dit « Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous essayez d'entrer dans la de véhiculer votre barre de fer et vos vitres dans la main, ben vous n'allez pas pouvoir entrer dans le repos. » Il faut une justice qui, qu'est-ce qu'il dit ? Surpasse. Bien sûr, celle des scribes et des pharisiens, parce qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, mais en même temps, eux, ils s'appuyaient sur la lettre. Faut pas croire. Il y a des choses qu'ils ont rajoutées, mais tout cela, prenez pour source la lettre de la loi. Ok ? Donc, cette justice qui surpasse, comment elle va surpasser ? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment notre justice à nous va surpasser celle de l'Ancien Testament pour entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons. Pour entrer, il faut croire, mais il faut une justice qui surpasse celle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament disait, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, aussi pratique le sabbat de cette manière, etc., etc. L'Ancien Testament disait tout cela. Mais il faut une justice qui surpasse ça. Ça, c'était une approche de la vérité. Et comment ça surpasse ? Regardons la suite de Matthieu chapitre 5. Hein ? Premier exemple, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Alors là, fais attention. Jésus dit, mais il vous a été dit, tu ne tueras point. Là, moi, je suis un pharisien en train d'écouter. Je dis, attention, comment tu parles de la loi de Moïse, là hein? Qu'est-ce que tu as à dire en plus, toi? Qu'est-ce que tu as à dire en plus? Mais le Seigneur avait à dire en plus, parce qu'il allait accomplir la loi pour nous faire vivre la justice de Dieu dans une autre dimension qu'eux. Et il montre cela. Qu'est-ce qu'il montre, finalement? Il montre qu'on entre dans le repos de Dieu, notre sabbat, c'est quand notre cœur est changé. Quand nous croyons, les péchés sont enlevés de notre cœur, le fardeau est enlevé de nous, et notre âme, d'après ce que Jésus a dit, vous vous souvenez, Matthieu chapitre 11, verset 28-29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Donc, quand on accepte Jésus, quand on croit en Jésus-Christ, le péché est ôté de notre vie, et nous trouvons déjà un premier repos. Nous entrons dans le repos. Ah, merci Seigneur. Mes péchés ne me condamnent plus. Quel repos! Je suis pardonné. Quel repos! Hein? Et je ne suis plus sous la condamnation de la loi. Quel repos! Parce que la loi a mené la condamnation. Hein? Ce que le peuple Israël voyait de cette loi, c'était qu'il fallait qu'il la pratiquait. Et parfaitement, il disait que si on ne pratiquait pas un seul commandement, eh ben, c'est qu'on transgressait toute la loi. C'était dur. C'était très dur. Mais quel repos! Quand nous croyons dans le Seigneur et nous entrons dans ce repos, nos péchés sont pardonnés. Pourquoi? Pourquoi nos péchés sont pardonnés? Parce que le pouvoir de la loi a été brisé sur nous. Ça marche avec. Parce que si la loi n'est pas enlevée, nos péchés continuent à nous condamner. Mais Dieu a enlevé la loi de telle manière qu'il nous pardonne et il n'y a plus de loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi morale et qu'on fait n'importe quoi, non. Mais quand on est en Jésus-Christ, on entre dans un repos concernant notre vie. Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut travailler notre cœur. Et ça parle du cœur. Et dans les exemples qui sont cités ici et qui sont des exemples du décalogue, de la loi des 10 commandements. Tu ne tueras point, ça vient d'où ça? Ça vient du décalogue. Hein? Et Jésus parle de ce qui se passe dans le cœur parce qu'il dit, la colère seulement est là, c'est déjà du crime. Pourtant, il n'a pas tué encore, là. Donc, il faut une justice qui surpasse la loi de l'Ancien Testament. Il faut que quelque chose se passe parce que je peux ne pas avoir tué, mais avoir du crime dans ma vie. Puisque j'ai le même jugement. Hein? Si quelqu'un est son frère, c'est un meurtrier. Le deuxième exemple que Jésus donne, c'est l'adultère. Il dit, si quelqu'un convoite dans son cœur, vous avez déjà vu ça? Il dit encore, il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Où ça? Dans son cœur. Dans son cœur. L'adultère n'est plus qu'un acte. Hein? Mais c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est là où la justice que le Seigneur nous donne, ce qu'il a accompli pour nous, n'abolit pas cela, puisque l'adultère est toujours considéré devant la face de Dieu. Vous êtes d'accord? Donc la loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie. Maintenant, quand on reçoit Jésus-Christ, il y a un cœur que Dieu nous donne pour vaincre l'adultère dans notre cœur. Pas seulement dans les actes, mais dans notre cœur. Hein? Donc la justice que le Seigneur nous donne sous la Nouvelle Alliance est plus grande. Hein? Elle surpasse la loi de l'Ancien Testament. Donc, la loi de l'Ancien Testament n'est pas abolie dans ce sens. C'est que c'est toujours là, quelque part, hein, mais c'est le matériau fini maintenant. La Nouvelle Alliance donne le matériau fini. Hein? Il n'y a personne qui, autrefois, quand il voyait du fer, il se disait, un jour, on va faire une voiture avec ça. Je parle avant que la voiture existe. Vous êtes d'accord avec moi? Personne. Sous l'Ancien Testament, quand ils voyaient la loi, ils ne savaient pas à quoi cela allait mener. Ils ne pouvaient pas voir, mais pas en Jésus-Christ. Jésus est venu maintenant accomplir une œuvre pour nous faire entrer dans la voiture. Et maintenant, nos yeux sont émerveillés. Ah, c'était pour ça. C'est extraordinaire. C'était pour que notre cœur change. C'est extraordinaire. Et c'est ça le repos, c'est le changement du cœur. Ça n'exclut pas les actes, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi il dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir » ? Si vous n'avez pas compris, je recommence. J'ai droit à 21 minutes encore. Hein? Non, je suis sûr que vous comprenez quelque chose là. Hein? C'est extraordinaire. Le plan du Seigneur pour notre vie. Non? C'est extraordinaire d'entrer dans ce repos parce qu'on croit, d'ouvrir son cœur au Seigneur. Et il a dit à son peuple, par Jérémie, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur nouveau. Et sur ce cœur, il dit, j'écrirai mes lois. Donc, la loi n'a pas été abolie dans le sens que ça n'agit plus. Ça n'agit plus sous forme de condamnation, mais c'est là, mais dans une plus grande richesse, sous la lumière d'une plus grande vérité, qui nous rend d'ailleurs libres. Qui nous rend d'ailleurs libres. Mes frères et mes sœurs, quelle grâce nous avons d'être nés dans ce siècle dans lequel nous sommes. Oh, vous auriez été nés juifs avant que Jésus vienne. C'était une autre histoire. Hein? Donc, en ce qui concerne le sabbat, est-ce que c'est différent ce qui concerne le sabbat? Il y a une dimension de l'accomplissement du sabbat qui concerne le cœur. Parce que tout concerne le cœur sous la Nouvelle Alliance. Et ceux qui mettent l'emphase sur la pratique de la loi dans sa forme visible, la pratique du sabbat dans la forme visible qui est de contrôler les allées, les venues, les actions et tout ça. Je crois qu'il me manque la lumière que dans la Nouvelle Alliance, le sabbat a été accompli pour donner du repos au cœur de l'homme. Qu'il s'agit du cœur. Allons regarder un petit coup dans Exode chapitre 20. Vous savez c'est quoi Exode chapitre 20? Exode 20, premier. Ah ben, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Hein? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est-à-dire là où tu étais esclave en Égypte. « Mais attention, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. » Jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On voit que la grâce, l'action de la grâce est beaucoup plus grande que la punition et le jugement dû à la désobéissance. C'est ce que Romains chapitre 5 développe, c'est ce que Paul nous donne. Et dis donc, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi, après il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. On a lu ça tout à l'heure. On en a vu l'accomplissement sous la Nouvelle Alliance. Tu ne commettras point d'adultère. Pareil, on a vu ça aussi. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Elle n'a pas le droit d'erreur là-dedans. Pas le droit de convoiter du tout. Ton stylo qui est beau, je n'ai pas le droit de le convoiter. Et si mon cœur n'est pas changé, là, je ne dois pas regarder ce stylo. J'aime écrire. Il a un super stylo, ce frère-là. J'aimerais essayer ce stylo. Non, la loi te dit tu n'as pas le droit. Attention. Si on est sous l'esprit de cette loi, c'est fini. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'était implacable? Parce que la loi était venue pour amener la connaissance du péché. Il fallait que celui qui fait face à cette loi, il réalise qu'il est un pécheur. Et pécheur dans les plus petits détails. D'accord? Mais maintenant, j'en viens à... Au sabbat, vous avez remarqué quelque chose? Vous n'avez pas remarqué quelque chose, mais je l'ai remarqué pour vous. C'est la bonne nouvelle, sinon on servirait à quoi là? Hein? Le commandement concernant le sabbat vient, vous savez, le décalogue se divise en deux parties. Une partie qui parle de notre relation avec Dieu. D'accord? Pas prendre son nom en vain, pas adorer d'autres dieux, ça concerne ma relation avec lui exclusivement. D'accord ? À la fin, le Seigneur parle du sabbat. Vous êtes toujours là? C'est important, vous ne ratez pas là. À la fin de cette série-là, le sabbat. Après viennent les commandements qui concernent notre relation avec les hommes, la vie de la justice entre nous. Entre les deux, au centre de ces 10 commandements, il y a le sabbat. Mais ce n'est pas par hasard. Hein? Parce que si ce n'est pas au centre, parce que Dieu veut, il a mis cette ombre et nous a montré qu'au centre, ça va être au centre de notre vie ce sabbat. Ça va être au centre, ça va être déterminant pour notre succès ou pour nos échecs le sabbat. Parce que si on ne croit pas, on n'entre pas dans le repos. Il a montré comment le sabbat, le repos représente la grâce de Dieu pour nous. Ben, c'est ça que Dieu veut pour nous. Si on ne vient pas là-dedans, on ne peut rien accomplir de tout ce qui est écrit avant et après. Donc, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de venir, finalement, l'ombre qui est là, et que la réalité nous est donnée en Jésus-Christ, c'est qu'il y a là un sabbat dans lequel nous devons entrer, quand nous entrons dans notre relation avec Dieu, et que nous sommes pardonnés, et que la loi est enlevée, nous entrons dans ce repos, et c'est à partir de ce repos qu'on arrive à vivre la justice de Dieu dans nos relations. Vous comprenez la place du sabbat là? Vous comprenez un peu? C'est au milieu! C'est comme une pièce charnière, vous savez? Hein? C'est ça qui fait que la porte s'ouvre et ferme. C'est les gonds de la porte. Les deux éléments s'articulent là-dessus. La grâce est au milieu. Notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu s'articule et dépend, allons dire, de cette grâce, de ce repos. Dieu nous a amenés dans le repos pour œuvrer en nous et pour faire que ce qu'il a dit devienne une réalité dans notre vie, pas comme quelque chose qui nous est imposé, mais comme quelque chose qu'il écrit dans notre cœur, où nous avons un respect pour Dieu, où nous nous éloignons de l'idolâtrie, où nous ne l'aimons et que lui seul y comprend. Et c'est aussi, ce sabbat représente quelque chose qui est important pour nous, pour l'autre côté. Toute notre vie de justice et de relation, si on n'est pas dans ce repos avec le Seigneur, si on ne sort pas du joug de cette loi, on ne peut pas entrer dans cette dimension de la parole de Dieu telle qu'elle nous est décrite par Jésus. On ne peut pas. Le Seigneur a enlevé la condamnation de nous, nous a mis dans le sabbat, c'est-à-dire dans le repos, et dans le repos, il travaille notre cœur. L'œuvre de Dieu, ce que je veux vous dire, c'est que l'œuvre de Dieu, ça se passe quand nous sommes dans le repos. Inutile de prolonger vos heures de sommeil à cause de cela, parce que ce n'est pas de ça que je parle. Ne pensez pas à prendre votre retraite 10 ans avant, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de ce qui se passe dans le cœur. Il y a un fardeau qui ne doit pas rester sur nous pour que l'œuvre de Dieu se fasse, pour qu'on arrive à pratiquer la justice de Dieu. Tout part du repos. Le repos dans le cœur. C'est pourquoi l'œuvre du diable, pour arrêter l'œuvre de Dieu, c'est de nous tirer du repos.
J'aurais souhaité avoir un peu d'amen, mais...
venir, au fur et à mesure. Et piège du diable et l'œuvre du diable, c'est te mettre des fardeaux. Et son moyen excellent, c'est de te condamner avec la loi. C'est de te faire croire que cette loi, elle est toujours d'actualité. Mais Paul a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Paul dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis plus sous la pratique de la loi comme c'était écrit sous l'Ancien Testament. Mon sabbat est dans mon cœur, dans ma relation avec Jésus. C'est lui le Seigneur du sabbat. C'est lui qui maintenant me fait vivre ce sabbat. C'est lui en me pardonnant et en enlevant cette loi devant moi et en me donnant un cœur nouveau qui va pratiquer la loi avec mon cœur. C'est ce que Dieu veut. Pour ça, tous les autres commandements découlent. Et vous avez remarqué que le premier, regardez bien, vous savez, le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Hein? Vous savez, Moïse n'était pas un secrétaire qui prenait des bouts de phrases qu'il disait, et après il dit, bon, on va remettre quoi en premier là? Non. Dieu a parlé clairement. Clairement. Premier commandement qui vient après le sabbat, c'est quoi? Honore ton père, ta mère. Ça, c'est une grande leçon pour les enfants et pour les jeunes. D'accord? Mais vous avez remarqué que le premier commandement qui vient après le repos, c'est pas tu ne feras point. C'est pas des interdits. C'est tout de suite, fais quelque chose. Parce que le sabbat est censé t'amener dans une communion avec le Seigneur. Le sabbat avait été donné au peuple d'Israël et ça leur avait été imposé parce qu'il n'y avait rien en eux pour les attirer vers Dieu. Dieu leur avait dit, septième jour, tu restes tranquille. Tu fais rien. C'était quoi le but? C'était de penser aux choses de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas en eux l'Esprit de Dieu pour mettre un désir en eux le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, chercher Dieu, être proche de Dieu. Il n'y avait pas ça. Donc Dieu a dit, hop là, là, la loi. Tu pratiques le sabbat. Mais quand le Seigneur parle du sabbat, juste après, il ne dit pas, tu ne feras pas. Il dit, honore. Vous faites la différence entre les deux? Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Quand nous entrons dans le sabbat et que nous sommes dans ce sabbat, nous ne sommes pas sous des interdits. Nous sommes dans un esprit dans lequel nous faisons des choses, nous honorons. Pour les enfants, c'est « honore ton père et ta mère ». Pour nous, c'est « honore Dieu ». Mais c'est « honore ». C'est ce que Dieu veut, qu'on l'honore. Qui a compris? Qu'est-ce qui se passe avant, le sabbat ou ça? Honore et après tu seras dans le repos. Honore et après pratique le sabbat. Qu'est-ce qu'il y a avant? Le sabbat, pourquoi? Parce qu'il faut passer dans le repos pour que Dieu œuvre en nous, pour que notre vie ne soit plus sous des interdits. Ça ne veut pas dire qu'on est libre de faire n'importe quoi. Oh, attention, ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne va pas dire, oulala, elle est belle la vie là sur la terre là. Hein? On y va. C'est pas ça, hein? Mais notre vie chrétienne n'est plus motivée par des « tu ne feras pas ». Tu ne feras pas. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Mais c'est l'œuvre de Dieu en nous nous parle de faire, de donner notre vie, de servir à Dieu, de l'honorer, de respecter notre prochain. Vous voyez, c'est différent de la loi. Ça, c'est une justice qui surpasse la loi de l'Ancien Testament. Hein? Oh, vous êtes là encore 5 minutes. C'est intéressant de comprendre ces choses. Et ce n'est pas seulement intéressant d'un point de vue intellectuel, mais c'est important de les comprendre dans l'esprit, parce que c'est le plan de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter aucun fardeau et aucune condamnation sur notre vie. S'il y a eu un péché, on se repent. La repentance met un terme à la condamnation de la loi. Mais même quand il y a un péché, la loi n'existe pas sur notre vie pour nous condamner. Notre conscience nous condamne, nous fatigue. Ça ne veut pas dire que tout est OK. Bien sûr, notre relation avec Dieu est affectée, mais nous mettons cela en ordre par la repentance. La repentance, c'est retourner dans le repos avec le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je ne t'ai pas honoré. Je ne t'ai pas honoré. J'ai mal parlé, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Pardonne-moi, Seigneur. Je retourne dans le repos. Je me décharge de mes soucis. Je me décharge de ce qui ne va pas. Je repars dans le repos. Et dans le repos, je retrouve une relation avec Dieu pour que Dieu œuvre en moi, pour que je surmonte cette affaire qui m'a fait tomber. C'est la force de la vie chrétienne de retourner dans notre sabbat. C'est ce que Dieu nous donne. Et c'est par la foi. Quand on s'est repenti, on croit. On met notre cœur clair. On est sincère si on est vrai. On retourne dans notre repos. On retourne dans notre sabbat. Et on est bien. Et on acquiert une paix. La Bible dit qu'il surpasse toute intelligence. On retrouve quelque chose avec le Seigneur. Et à partir de là, on va vaincre là où on a échoué concernant les commandements. Vous savez, la loi ne procède pas comme la foi. C'est ce que Paul dit dans Galates. Galates, chapitre 3, verset 12. Galates, chapitre 3, verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça, c'était la loi. La loi ne procède pas de la foi. Le procédé n'est pas le même sous la loi et sous la foi. sous l'Ancienne Alliance et sous la Nouvelle Alliance. Les deux ne se mélangent pas. La loi ne procède pas de la foi, mais la foi aussi ne procède pas de la loi. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un faillit, qu'est-ce qui se passe souvent? Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il peut dire, Seigneur, pardonne-moi. La prochaine fois, je vais faire mieux. Ce n'est pas retourner dans le sabbat, ça. Ce n'est pas une vraie repentance, ça. C'est aller affronter le lion encore une fois nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on veut retourner dans le repos, on se repent et on part avec la grâce de Dieu. On compte sur l'œuvre de Dieu dans notre cœur. On ne dit pas, Seigneur, je ferai mieux. On ne fait pas cette promesse-là. Mais on dit, Seigneur, si tu n'œuvres pas en moi, je suis perdu. J'ai besoin de ta grâce. Secoue-moi. Non seulement, Seigneur, tu peux me pardonner, mais tu as le pouvoir sur toute chair. Tu as le pouvoir de me transformer. Tu as le pouvoir de me libérer de ces mauvaises choses. Et maintenant, dans le repos, je cherche le Seigneur. Je m'approche de lui. Il n'y a pas de guerre entre Dieu et moi. Je le cherche et Dieu m'accueille. Le repos a été réservé pour ceux qui croient simplement, pas ceux qui font de belles promesses. Parce que parfois, on croit qu'on va se relever parce qu'on a dit au Seigneur, « Ah ben, on va être meilleur. » Menteur. On est en train de dire des mensonges au Seigneur. On ne va pas être meilleur. Il faut retourner dans le sabbat par la repentance et dire, « Seigneur, voilà mon état. Secoue-moi. Relève-moi, éclaire-moi. » Et Dieu fait une œuvre, et après, on arrive au fur et à mesure à pratiquer cette justice qu'on n'a pas réussi à pratiquer, mais on arrive à la pratiquer. Hein? C'est extraordinaire! C'est l'œuvre de Dieu! Et nous sommes tellement sensibles, beaucoup d'entre nous, sous la Nouvelle Alliance. Nous devenons sensibles au péché, pas comme eux, ils étaient sous l'Ancienne Alliance. Nous, aujourd'hui, quand on a des pensées qui sont impures, quelque chose qui se passe là, on sent que, oh là là, mais on ne se condamne pas, mais on réalise qu'on a la conscience que quelque chose doit se passer dans notre cœur. Non? Hein? Mais de qui on a besoin quand les choses ne vont pas? On a besoin de la grâce qui est en Jésus-Christ. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est notre sabbat. C'est notre septième jour qui a commencé. Vous savez que le repos, c'était le septième jour. Mais la Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans ce, efforce-toi d'entrer dans ce sabbat. Hein? Il faut s'efforcer et renoncer au fardeau, surtout ceux de la loi. La condamnation de la loi. Mais Paul nous exhorte à trouver un repos. Hein? Même concernant nos soucis, n'importe quoi des choses de la vie, mais à prier. La prière, c'est une des clés pour entrer dans le repos. Se décharger sur le Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Et avoir une paix. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, vous voulez voir comment on peut vivre cette paix-là? Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, qu'il dit. Toujours, c'est drôle, hein? Toujours. Comment on peut se réjouir toujours? Hein? En toutes circonstances, comment? Si on est dans le repos. Mais il y a tellement de choses qui nous tirent du repos. Parce qu'on manque de foi. Parce que c'est par la foi qu'on rentre dans le repos et c'est par la foi qu'on reste dans le repos. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à rester dans le repos. Mais Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est numéro un. Quand on est dans le repos, on a de la douceur. Vous comprenez? Parce que pourquoi on s'agite? Si on n'est pas sous la loi, pourquoi est-ce qu'on va s'agiter? C'est la loi qui nous agite. C'est la loi qui crée l'insécurité. C'est la loi qui crée la condamnation. Mais le repos dans le Seigneur enlève cela. Hein? Et ça produit une douceur. Même dans notre relation avec les uns et les autres, pourquoi est-ce qu'on irait paniquer? Pourquoi est-ce que si quelqu'un a commis une faute, on est dans tous nos états? Qui on est? On est le juge des gens, nous? On reste dans le repos. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas selon la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on fait comme si rien n'était. On fait comme les Corinthiens, on ferme les yeux sur l'inceste. Non! Non, on considère, on traite les choses comme il faut, mais pas avec notre chair. On reste dans le repos. Il faut être fortifié dans la grâce pour rester dans le repos. Pareil quand on témoigne du Seigneur, qu'on tombe sur des gens qui aiment poser des questions, et parfois, ben heureusement qu'il n'y a pas d'objet à portée de main, quoi. J'exagère. Mais on est tellement agacé, quoi. Mais Paul dit de défendre avec douceur. Le repos produit une douceur. Ben, c'est un travail. C'est un travail de Dieu dans notre cœur. Mais ce n'est pas fini. Ça continue en disant, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire, quand vous priez, tout ça, vous avez supplié, remerciez-le. Action de grâce. Il est en contrôle, il prend soin. Et, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voyez, qui surpasse. Sur la Nouvelle Alliance, ça surpasse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout ce que votre tête peut calculer et voir, et toutes les déductions que vous pouvez faire par votre intellect, par vos raisonnements, cette paix est plus grande que ça. Ça viendra engloutir cela. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le repos. Faites connaître. Ne portez pas des soucis, faites connaître. Et il faut faire connaître jusqu'à ce qu'on a l'assurance que Dieu a entendu. Pas se dire, j'ai dit, Dieu a entendu. Mais il faut une relation avec le Seigneur où on acquiert la conviction. Et il y a une paix qui est là, qui surpasse toute intelligence. Donc le Seigneur ne promet pas que dans toutes les petites situations qu'on a, il va tout changer. Mais il peut nous donner le repos dans les situations. Mais Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Apprenez à faire confiance en Dieu. C'est quelque chose dans lequel on doit grandir, non? Hein? Quelque chose dans lequel on doit grandir. Donc, je veux vraiment vous encourager à trouver ce repos. Si vous êtes dans ce repos parce que vous avez cru en Jésus, vous devez ressentir une paix dans votre cœur. Si vous avez perdu cette paix, sûrement, que vous avez pris la vie chrétienne, avec le procédé de la loi. Et ça vous condamne et ça vous fatigue. Hein? Mais dans votre marche avec le Seigneur, retrouvez la paix avec le Seigneur. Et sachez qu'il y a un repos de sabbat qui vous est réservé, personnellement, chacun d'entre nous. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Hein? On dirait que je viens de vous annoncer les actualités télévisées, là. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Il y a un repos, mon frère, ma sœur, il y a un repos de sabbat qui t'est réservé. Faut le prendre. Et Paul dit, demeurons fermes dans cette grâce. Demeurons fermes. Pourquoi on doit prier, mes frères et mes sœurs? Si quelqu'un ne prie pas, là, son âme est tourmentée par les fardeaux. Il n'a pas de communion avec le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur, il faut lire la parole de Dieu, il faut se nourrir de la parole de Dieu pour rester dans ce repos et voir comment Dieu peut faire de grandes choses avant la foi, parce que c'est la foi qui nous garde dans le repos. Et c'est par le repos que Dieu nous fait entrer dans son plan. Hein? Donc frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de vous dire pour vous encourager. Arrêtez de prendre votre vie chrétienne dans votre propre main, de mener votre combat à votre manière, mais comprenez, le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une des plus grandes leçons à apprendre et une des plus difficiles à apprendre. Qu'on ne peut rien, nous. Et de rentrer dans le repos. Même quand on témoigne du Seigneur, quand on va évangéliser, on est dans le repos. Oh! Quand on parle à des gens, on ne va pas porter les fardeaux du monde entier sur nous. On reste dans le repos. Hein? Ah, il va falloir organiser pour tous mes voisins, pour tout le monde, pour hein, tous les gens que je croise. Hein, mais il faut que je leur parle du Seigneur. Hein? Calme là, calme. Reste dans le repos. Cherche le Seigneur, pars du sabbat, pars de ton repos. Cherche le Seigneur. S'il te manque quelque chose, dis Seigneur, aide-moi. Mais ne va pas être tourmenté et porter des fardeaux qui vont t'écraser et qui souvent paraissent spirituels. Cette personne, Elle aime le Seigneur, elle aime les gens. Elle a tellement de fardeaux qu'elle porte pour les autres. Mais ça, ça a une limite, ça. Il y a un moment où vous vous écrasez, hein. Vous êtes fini, hein. Quelqu'un qui porte vraiment les fardeaux dans l'esprit, là, son visage brille, se réjouit. Il faut rester dans le repos. Amen. Les frères qui vont venir partager ici, de plus en plus, soyez dans le repos. Ça ne veut pas dire, cool, je ne cherche pas le Seigneur, je suis là, je prends le micro, non. Hein? Mais dans le repos. Laissons le Seigneur nous saisir par son esprit et nous faire goûter à la vie de l'esprit, pas la chair, la vie de l'esprit. Amen. Alléluia, on se met debout. On remercie le Seigneur. Est-ce que ça éclaire certains ce matin? Qui est un peu éclairé ce matin là? Qui avait besoin de ça? Qui avait besoin de ça? Ah, vous aviez besoin de ça. Ben, le Seigneur connaît vos besoins. Le Seigneur connaît vos besoins. Et il vous parle.